Le message que vous allez suivre est un enseignement de la pastorale pour la propagation de l'Évangile. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. PPE, propagez l'Évangile pour le salut de la multitude et la joie du ciel.
Amen. La semaine dernière, ou il y a deux semaines, j'ai demandé qu'on invite des personnes pour venir prier avec nous. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évangélisateurs. On a été fait une évangélisation, mais ça n'empêche pas qu'ici soit rempli. Parce que entendre ce message-là pour nous seuls, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que d'autres personnes ont besoin d'entendre ce message et ces personnes-là peuvent même nous aider dans notre marche. Amen. Tu peux inviter une personne et puis cette personne-là va croître spirituellement assez rapidement. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, quand on regarde, c'est André qui a été chercher Pierre. André a été chercher Pierre pour le confier à Jésus. Amen. Et on a vu que Pierre est devenu la pierre principale de l'édifice que Dieu est en train de bâtir. Il est devenu le chef de l'Église. On a vu que Philippe est allé chercher aussi Nathanaël ou Barthélemy. Et ils ont continué aussi cette marche. Vous me suivez? Donc, il est important d'aller chercher d'autres personnes qui vont nous aider dans notre marche. Ne soyons pas entre nous. Soyons producteurs de preuves. Soyons producteurs de preuves. La preuve que nous sommes convertis, la preuve que nous sommes une famille chrétienne, la preuve que nous sommes des gagneurs d'âme. Et les gagneurs d'âme, leur raison d'exister, c'est la multitude de personnes qu'ils invitent à la suite de Christ. Aujourd'hui, le thème que je voudrais développer, c'est « Espérant comme toute espérance, y crut et devint ainsi ». Espérant qu'en toute espérance, il crut et devint ainsi. Amen. Seigneur, daigne nous accorder la plénitude de ta présence. Ouvre notre intelligence et aide-nous à glorifier ton nom. Amen. Mais là où tu es assis déjà, je voudrais que tu fermes tes yeux et puis tu vas dire merci à Dieu pour ce week-end d'évangélisation. Ce week-end au cours duquel Dieu a touché certainement plus de 3 000, 4 000 personnes par l'évangélisation que nous avons menée hier. Tu vas bénir Dieu pour ta vie, pour ceux-là qui sont partis. Tu vas rendre grâce à Dieu pour les conversions qu'il y a eu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour les guérisons, les délivrances qu'il y a eu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la main puissante de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de toutes ces personnes. Il est important que nous rendions grâce à Dieu, ce Dieu puissant et fort qui nous a soutenus pendant ce moment. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés seuls. Il a été avec nous et il nous a fait revenir de cette mission qu'il nous a confiée. Je voudrais que tu bénisses le nom du Seigneur, que tu rendes grâce à Dieu là où tu es. La tête basse, parle à ton cœur, dis Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir de ce que tu m'as associé à cette œuvre d'évangélisation, à cette œuvre de salut des âmes. Il est important de rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as accompagnés pendant 2 jours. Tout au long de ces 2 jours, tu as manifesté tendresse et pitié, miséricorde et bonté. Tu as manifesté puissance et honneur. Tu as glorifié ton nom. Tu as sauvé des âmes. Tu as arraché des âmes du pouvoir de l'enfer. Tu as fermé la route de l'enfer à plusieurs personnes. Et tu as ouvert les portes du paradis à chacun de nous, afin que, Seigneur, nous aussi, nous puissions participer au festin céleste. Nous te glorifions. Merci pour les guérisons, pour les restaurations, pour les bénédictions. Merci pour ce frère qui a Tipi, qui est le directeur de la radio Nzi, que tu as utilisé pour nous bénir. qui a permis qu'il y ait la diffusion de ce moment, de ce programme sur sa radio qui émet sur plusieurs villes. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te célébrons. Merci pour ce que tu as accompli avec les prêtres. Merci pour le Père évêque qui était présent ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire avec la pastorale pour la propagation de l'Évangile. Merci pour ces 15 longues années au cours desquelles tu n'as cessé de nous manifester tendresse et pitié, bonté et miséricorde. Ces 15 longues années au cours desquelles tu n'as cessé d'ouvrir notre intelligence. Nous te glorifions. En ce soir, nous voulons, Seigneur, parler de l'espérance. Espérons contre toute espérance, c'est-à-dire cette foi agissante, afin que ton nom encore soit glorifié. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, amen. La Bible dit dans le... C'est un peu long, hein, donc vous allez suivre tout le chapitre 4 de Romains. C'est intitulé dans la Bible Tob, Abraham le croyant, l'homme de foi si vous voulez. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par ses œuvres, il a de quoi s'enorgueillir. Mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui accomplit des œuvres, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, à celui qui n'accomplit pas d'œuvres, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée comme justice. C'est ainsi que David célèbre le bonheur de l'homme au compte duquel Dieu porte la justice indépendamment des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et les péchés remis. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Cette déclaration de bonheur, c'est Paul qui parle, hein? Il dit cette déclaration de bonheur concerne-t-elle donc que les circoncis ou également les incirconcis? Nous disons en effet, la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Mais dans quelles conditions le fut-elle? Avant ou après sa circoncision? Non pas après, mais avant. Puisque le signe de la circoncision lui fut donné comme sceau de la justice reçue par la foi lorsqu'il était incirconcis. Ainsi devint-il à la fois père de tous les croyants incirconcis pour que la justice leur fût comptée et père des circoncis, de ceux qui non seulement appartiennent au peuple des circoncis, mais marchent aussi sur les traces de la foi de notre père Abraham avant sa circoncision. En effet, ce n'est pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi que la promesse de recevoir le monde en héritage fut faite à Abraham ou à sa descendance. Je reprends le verset 13 qui dit « En effet, ce n'est pas en vertu de la, loi, mais en vertu de la justice de la foi. » La justice de la foi, c'est intéressant, il faut souligner ces mots-là. Quand vous voyez ce groupe de mots, la justice de la foi, il y a quelque chose de particulier là-dedans. Quand vous lisez la Bible, vous voyez ces choses-là. Il y a un accent particulier que Dieu veut mettre en exergue. Il dit la justice de la foi, c'est-à-dire quelqu'un qui est justifié par sa foi. Amen. Et non par ses œuvres. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quelqu'un qui est justifié par sa foi, c'est-à-dire par le fait qu'il croit bêtement en ce que Dieu a dit. Il croit que Dieu est le juste rémunérateur des hommes, mais il croit aussi que la justice de Dieu se manifeste dans sa miséricorde et qu'il sait qu'aucune de ses actions, aucun de ses actes ne justifie le fait qu'il soit pardonné, ne justifie le fait qu'il soit positionné, mais la main puissante de Dieu est agissante dans sa vie. Je continue. Il dit, en effet, ce n'est pas en vertu de la loi, c'est-à-dire des œuvres, mais en vertu de la justice de la foi que la promesse de recevoir le monde en héritage fut faite à Abraham ou à sa descendance. Ça veut dire quoi? Dieu ne regardait pas à ce que Abraham, ne s'attendait pas à ce que Abraham respecte trait pour trait sa parole. Il était convaincu que Abraham, homme qu'il était, qu'il est ou qu'il était, ne pouvait pas respecter trait pour trait ses exigences. C'est pourquoi Dieu va regarder plutôt à une chose. Le degré de foi d'Abraham. Comment est-ce que la foi peut conduire, peut aider à être sauvé? Quand il parle d'être sauvé, c'est non seulement hériter du royaume céleste, mais être sauvé de la déchéance, de la mort, être sauvé de la maladie, être sauvé de la misère, être sauvé de la pauvreté, ainsi de suite. Si les héritiers le sont en vertu de la loi, la foi n'a plus le sens, n'a plus de sens et la promesse est annulée. Amen. C'est ce que je viens de dire. Si les héritiers de Dieu que nous sommes, verset 14, le sont en vertu de la loi. Et c'est ça qui marque la différence entre le christianisme et toutes les autres religions, même le judaïsme de laquelle nous sommes sortis. Puisque nous, notre foi, c'est la foi judéo-chrétienne, c'est-à-dire basée sur le judaïsme, mais ce judaïsme transfiguré par le Christ Jésus-Christ, afin que nous connaissions la vérité dans sa plénitude. Et cette vérité dans sa plénitude, c'est de savoir, Paul nous explique clairement ce qui est dit. Paul nous dit, en réalité, si quelqu'un est héritier de Dieu, ce n'est pas en vertu de ses œuvres. Comme si, parce que tu as bien fait, Dieu te doit quelque chose. Amen. Paul dit non, ce n'est pas à cause de ça. Mais c'est en vertu de ton attachement à Dieu, de ce que tu crois en Dieu. Cela ne veut pas dire de ne pas bien... Cela ne veut pas dire de rester là et ne pas bien agir. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il dit, ne pense pas que c'est parce que tu agis bien que Dieu fait comme ceci. Amen. C'est fort, hein? C'est-à-dire, le gros problème des hommes, des chrétiens, c'est que la parole de Dieu n'est pas comprise. Et comme la parole de Dieu n'est pas comprise, on agit d'une certaine manière. Je continue, vous allez voir. Si les héritiers le sont en vertu de la loi, c'est-à-dire en vertu des règles qui ont été établies, on dit, si tu marches à gauche, je te donne ça. Si tu marches à droite, je te donne ça. Comme Deutéronome 28 le dit, il dit, si c'est à cause de ça, écoutez la suite, la foi n'a plus de sens. Et la promesse est annulée. C'est-à-dire la promesse rattachée à la foi est annulée. Abraham avait été effectivement appelé par Dieu. Mais voilà un monsieur qui est marié à une femme. Il arrive devant Pharaon. Sa femme était tellement belle, la Bible nous dit clairement que Sarah était très belle. Elle était tellement belle, il dit, ma chérie, tu es tellement jolie que moi-même je sais que aucun homme, tu ne peux passer inaperçu devant un homme. Aucun homme ne pourra tenir. Donc, écoute-moi bien. Lorsque Pharaon va demander, si tu es ma femme, je dirai tu es ma sœur. Voilà quelqu'un qui croit en Dieu et qui fuit ses responsabilités d'époux. Parce qu'il veut sauver sa tête. Il s'est dit, parce qu'il a dit, si Pharaon le sait, il va me tuer et puis il va te prendre. Donc j'imagine la beauté de Sarah. Sincèrement, j'imagine la beauté de Sarah. On ne s'est jamais arrêté là-dessus. Mais cette beauté de Sarah-là va plus loin parce que cette beauté-là se transcrit même dans sa relation avec Dieu et dans le respect qu'elle avait son mari. Qu'elle avait pour son mari. Mais ce n'est pas l'objet de ma prédication aujourd'hui. Donc Abraham, qui est le père appelé pour sauver la multitude, ce monsieur-là, déjà, est un menteur. Vrai ou faux? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est un menteur. En plus, c'est quelqu'un qui pense à lui seul. C'est-à-dire, il ne pense même pas à Sarah. Parce que la suite de l'histoire d'Abraham, vous allez voir que Pharaon a pris Sarah. Il partait coucher avec elle. C'est-à-dire quoi? Voilà quelqu'un qui pense, il est très égoïste. Abraham est très bizarre. Il préfère sauver sa tête. C'est-à-dire, c'est le genre de mec, si on vient ici, on dit, bon, je te tue ou bien tu acceptes que viole ta femme. Il va dire, viole là. Mais c'est ce qui vient de se passer. Dans son histoire, c'est ça. Pourtant, c'est le père de la foi. Amen. La question, c'est comment un tel homme peut devenir le père de la multitude? Comment un tel homme peut être l'ami de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Il est simplement l'ami de Dieu parce que ce que Dieu lui a dit, il va faire lui là. Il dit allons seulement. C'est tout. Donc, ce n'est pas à cause des œuvres bonnes que Abraham aurait pu poser. Quoique Dieu exige qu'on pose des œuvres bonnes. Mais ce n'est pas à cause de ça. Mais c'est à cause de son attachement à Dieu. Comment un gars comme David, Dieu n'est-il pas omniscient? Il est omniscient, non? C'est-à-dire, il sait tout. Rien ne lui est caché. Mais voilà un gars comme David, Dieu qui savait que c'est un gars, non seulement il est meurtrier, il tue beaucoup d'hommes. Il tue, il passe son temps à tuer, alors qu'il allait dire commandement, tu ne tueras point. Bon, c'est vrai, tu as dit, c'est pendant la guerre, mais quand même. Il se lève aujourd'hui, ça va conquérir les gens, il les tue. Si par la, dans la guerre, on vient te tuer, je comprends. Premier élément, mais ce n'est pas ça. Il tue même son serviteur, son garde même sûr, pour prendre sa femme. Il est adultéré, mais c'est un adultère pur, et puis c'est un tueur. Dieu savait tout ça. Pourtant, il a appelé David, vrai ou faux. Il dit, derrière le troupeau de ton père, je t'ai appelé. Il dit, le roi David même raconte cela dans un psaume. Il dit, tu m'as, Seigneur, tu m'as choisi parmi mes frères pour cette grande bonté. Vous connaissez ce chant? C'est David qui l'a chanté, ce n'est pas vous et moi. C'est aucun homme parmi nous qui a écrit ça. Mais ce David-là, c'était un tueur, c'était un adultère. Dieu le savait déjà. Dans sa préséance, il avait vu. Et pourtant, comment il a appelé David? Je n'ai pas entendu. Comment il a appelé David? L'homme selon son cœur. Mais comment un tel homme peut être selon le cœur de Dieu? Donc, comment est le cœur de Dieu? Voilà les questions que je me suis posées. Comment est le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu n'est pas le cœur des hommes pour penser d'une certaine manière. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'il t'a confié quelque chose de bien précis sur cette terre. Applique ton cœur à exécuter ce qu'il t'a donné, en faisant l'effort sur toi-même de marcher droit selon ses préceptes. Mais ne pense pas qu'il te met à telle position parce que tu es droit, parce que tu es juste, parce que tu es bon, parce que tu es comme ceci. Jamais de la vie. Si quelqu'un commence à penser ainsi, il se fouvoie. Quelqu'un me suit? Et Abraham est un monsieur extraordinaire dans ce sens-là. Mais Dieu va compter Abraham comme l'homme juste, le père de la foi, de manière très simple. Dieu va agir comme ça parce que quand Lot et Abraham vont faire parler, Dieu va parler à Abraham. Et il dit, il faut que vous vous sépariez. Abraham, connaissant Dieu, il va dire à Lot de choisir. Il se dit, si Lot choisit, c'est que c'est Dieu qui a parlé en sa faveur. Il va dire, mon neveu, voilà la terre qui est là. Si tu vas au nord, moi je vais au sud. Si tu vas à l'est, je vais à l'ouest. En tout cas, je serai dans le sens opposé. Et la Bible dit que Lot va regarder, il va voir la plaine, une plaine magnifique, la plaine de Sodome et Gomorrhe, magnifique. Il y avait de l'eau, il y avait des herbes fraîches. Enfin, là où on peut bien élever son troupeau. Et le gars a choisi là-bas. Abraham s'est tourné, il dit, bon, comme il a choisi ici, il m'en vais. Là. Là-bas, la Bible dit que c'était des montagnes, cailloux. Mais vous savez, c'était où? Canaan. Il savait que... Et c'est là Abraham va être compté pour juste. Parce que laissant Dieu décider à sa place, dans ses faiblesses, dans ses incapacités, il est l'oncle. Il pouvait dire à son neveu, écoute-moi, petit, tu vas là-bas, moi je vais comme ceci. Mais s'il choisissait lui-même, ça veut dire que cette terre-là, il avait en vue de faire quelque chose de particulier lui-même. On ne peut pas lui compter cela comme justice. Parce que il dit bien, Paul dit, si tu as déjà choisi quelque chose, ou bien si tu agis bien, ce que tu es en train de poser comme acte là, il y a un salaire derrière. Ou bien, quand tu vas au travail, on dit, si tu fais ça, à la fin du mois, on te paye. Il y a un salaire derrière. Parce qu'il y a une loi qui est établie, c'est ta fiche de fonction, on dit, il faut faire ça. Si tu accomplis cela, c'est un salaire. Donc, tu n'as aucun mérite. En réalité, celui qu'on récompense, celui qu'on paie chaque fin de mois n'a aucun mérite. Mais celui-là, qu'on ne paye pas, mais qui obéit simplement, on lui dit, va à gauche, va à droite. On dit, mais lui, elle est bête ou quoi? C'est pourquoi le Seigneur ne se gêne pas de nous appeler ses brebis. Parce que la brebis, là où le berger s'en va, c'est là-bas, la brebis s'en va. À gauche, quand il va à gauche, les brebis vont à gauche. Quand ils vont à droite, les brebis vont à droite. Vous me suivez? Donc voilà quelque chose. Et Paul a bien compris cela. Et c'est ce qu'il est en train de nous enseigner. Il dit, si les héritiers le sont en vertu de la loi, c'est-à-dire, si toi, ton papa, avant de mourir, a fait un testament, Et puis il dit, mon fils envoie, va avoir ça. Le berger envoie, il a un joli nom. Hein. Son nom veut dire miséricorde. C'est bien, on voit. Miséricorde. Est-ce qu'il est miséricordieux? Je n'en sais rien. Mais c'est un joli nom en tout cas. Donc il dit, si on dit, envoie est sur la liste, lui va avoir un vélo. J'ai dit ça parce que son papa est très âgé. Et puis son grand héritage, c'est son pongo de 1932 là, qui existe encore. Donc ça, il va te léguer ça. Hein, si tu as le vélo, on dit, bon, est-ce que c'est un mérite pour toi? Ton papa a mis sur l'héritage. On dit, toi, tu auras un vélo. L'autre aura ça, l'autre aura ça, l'autre aura ça. Il n'y a rien. C'est ça Paul dit. Il dit, si les héritiers le sont en vertu de la loi, la foi n'a plus de sens. Mais lorsque, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est déterminé, qui est écrit, et que tu es là un matin, on vient dire, bon, il n'y a pas eu de testament, hein? Vous me suivez? Ton papa, tu espérais, mais ton papa n'est pas là, le cordon, il n'a pas fait de testament. Et puis, contrairement à ce qu'on vous pouvait penser, il pensait à un Kpongo. Et le vieux, maintenant, à son décès, ou bien avant de décéder, il dit, bon, je lègue les 30 hectares de forêt là à mon fils Envo. C'est là, parce que tu espérais hériter beaucoup plus, et non d'un Kpongo. Et c'est ce que Paul dit ici. Si les héritiers le sont en vertu de la loi, la foi n'a plus de sens. Quelqu'un me suit? La foi n'a plus de sens. C'est-à-dire, c'est un salaire normal. C'est quelque chose qui te revient de droit. Or, dans la foi, ça ne te revient pas de droit. Non. C'est quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas. Je continue. Il dit, la foi n'a plus de sens et la promesse est annulée. Il y a une promesse qui est rattachée au fait de marcher avec Dieu. Regardez ici. Car la loi produit la colère. Vrai ou faux? Parce que je viens de parler de l'héritage qu'on doit partager. Si ton papa dit tu dois prendre un pongo et que celui qui n'a rien foutu de sa vie, on lui donne la forêt, ça produit quoi? La colère dans le cœur des gens. Vous n'avez pas vu qu'on partage l'héritage? Il y a des gens qui sont fâchés. Pourquoi lui il a eu ça, moi il n'a pas eu ça? La loi produit la colère. Non seulement la colère de celui-là à qui ça s'applique, mais la colère de celui-là qui juge. Par exemple, quelqu'un qui vole, quand on va à la justice, et quand il essaie de se justifier pour dire non, c'est parce que c'est comme ceci que j'ai volé, le juge, ça le met en colère, il dit, tu es malade. On dit de ne pas voler un point très. Donc ça produit la colère. Mais en même temps, celui-là aussi qui a volé, et qui, par exemple, n'avait pas à manger, il dit, mais comment vous pouvez me condamner alors que la société n'a rien mis en place pour que je puisse, il y a du notre monde, n'a rien mis en place pour venir en aide aux orphelins et aux veuves. Je ne savais quoi faire, donc je suis allé voler. Comment vous pouvez me condamner? Lui aussi, il est en colère. Il est en colère contre la société, il est en colère contre tout le monde. La loi produit la colère. Quelqu'un m'a suivi, hein? Car la loi produit la colère. Là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Vrai ou faux? Il n'y a pas de transgression. Si à la maison, on n'a jamais dit, tout le monde rentre à 19h. On dit, tu rentres à l'heure que tu veux. Où est le péché qui est dans ça là? Mais quand on dit, on rentre tous à 19h et que toi, tu t'amènes à 22h, tu as transgressé la loi qui est établie. Donc, la loi emmène la colère des gens. Je continue. Aussi, est-ce par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure valable pour toute la descendance d'Abraham, non seulement pour ceux qui se réclament de la loi, mais aussi pour ceux qui se réclament de la foi d'Abraham, notre père à tous. Ah, c'est chic ça. Oula. Il dit donc que c'est par la foi. C'est pourquoi les musulmans se réclament aussi d'Abraham. Vous n'avez pas compris dans ce que je viens de lire, écoutez. Il dit aussi, est-ce par la foi qu'on devient héritier? Donc le musulman aussi dit, si j'ai foi que je suis enfant d'Abraham, moi aussi je suis héritier de Dieu. Moi aussi. C'est pourquoi l'église catholique, par exemple, se rapproche beaucoup des chefs musulmans. Pas que c'est la même religion, mais il dit, à cause d'Abraham, le lien de jonction. Donc il y a quelque chose là. Mais de toutes les manières, on a vu que Dieu a béni Ismaël. Et d'ailleurs, même Dieu a dit, il sera très prospère. Il va tenir les portes de ses ennemis, ainsi de suite. Donc, si Ismaël est sorti d'Abraham, l'enfant de la transgression, qu'est-ce qui se passe? L'enfant de la loi, de la transgression. Mais par contre, Isaac, c'est l'enfant de la grâce. Mais tous deux sont enfants d'Abraham. Quoique le salut vient de l'enfant de la grâce. C'est pourquoi je relis cette partie. Aussi, est-ce par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure valable pour toute la descendance d'Abraham. Non seulement pour ceux qui se réclament de la loi, c'est-à-dire ceux qui se réclament de la loi, c'est qui? Les juifs, c'est les musulmans. Pour dire, eux, en fonction de la loi juive, là, eux, ils sont descendants d'Abraham. Vrai ou faux? Les musulmans aussi disent, en fonction de Agar et de Ismaël, puisqu'ils sont nés d'Abraham, eux aussi sont descendants d'Abraham. Notre père, il dit, mais aussi pour ceux qui se réclament de la foi d'Abraham, ça c'est nous maintenant. Ceux qui se réclament de la foi d'Abraham, notre père à tous. En effet, il est écrit, j'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. Il est notre père devant celui en qui il a cru. Le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. J'aime trop cette partie-là. Si quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de vous partager, la foi réelle qui vient d'Abraham, la foi de notre père Abraham va naître dans son cœur et il sera justifié par le Seigneur. Il sera justifié, c'est-à-dire ta difficulté que tu es en train de vivre va se transformer en sujet de joie pour toi. Il est notre père devant celui, il est notre père devant qui? Donc si nous sommes de la descendance d'Abraham, vous et moi, il est notre père devant qui? Celui en qui il a cru. Il a cru en qui? La Bible a dit. Le Dieu qui fait vivre les morts. Ton cas n'est pas désespéré, je suis désolé. Il fait vivre qui? Les morts. Il fait vivre qui? Les morts. C'est-à-dire, là où il n'y a pas vie, il fait vivre. Le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Vous n'avez pas vu que j'aime prêcher avec ça? Lui qui appelle à l'existence celui qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. Donc, si dans ta vie, la maladie t'avait gangréné, Dieu appelle à l'existence la santé pour toi. Si c'était la pauvreté qui était ton habit de tous les jours, Dieu appelle désormais la prospérité dans ta vie et la pauvreté est déchirée pour toujours. Donc, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Toi-même, tu sais que dans ta famille, la vraie, personne ne se marie. Hein? Vraie, quand vous naissez là, c'est pauvreté jusqu'à... on meurt. Tu sais que dans ta famille, personne n'arrive à dépasser le bac. Tu sais que dans ta famille, personne ne peut être positionné. Donc, ce qui n'existe pas dans ta famille, Dieu appelle cela l'existence. Parce que tu es fils d'Abraham. Tu es fils de qui? Abraham. Quelqu'un est fils d'Abraham en ce soir? Est-ce que quelqu'un est fils d'Abraham? La Bible dit, nous sommes de la descendance d'Abraham. Tous ceux-là qui ont cru en Dieu sont fils d'Abraham. Mais on n'a pas dit sont fils de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux qui sont fils de la promesse. Mais, parce que tu es fils d'Abraham, Dieu se reconnaît aussi en eux. Et il est béni. Pourquoi? Afin que personne ne pense que c'est parce qu'il est juste qu'il est béni. La promesse, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été fait à Dieu, non à cause de bonnes œuvres forcément d'Abraham, mais en même temps, ceux qui, c'est ce que Paul explique en haut, en fait. Maintenant, en même temps, ceux qui sont aussi nés de péché, par exemple, Agar, elle sait bien qu'Abraham est marié, mais ça, même si Sarah vient sortir, elle lui dit, mais il est marié, ou bien. Donc, eux également, ils n'ont pas, en fait, ce sont des Isaac, on dit, c'est un enfant du terrain. Mais la bénédiction qui est rattachée à Abraham est rattachée aussi à eux. Afin que ni ceux qui sont justifiés par la promesse, ni ceux qui sont éloignés à cause de la loi, chacun ne se glorifie de quoi que ce soit. Mais eux tous, ils bénéficient de la faveur de Dieu, née de la foi d'Abraham en Dieu. Quelqu'un m'a suivi? Hein? Ah, c'est dur, la foi. Ils n'ont rien compris. Bon, je continue mon truc. Mais si je veux rester là. Écoutez fort, vous allez comprendre. Voilà pourquoi je vais lire la suite. On dit, il est notre père devant celui en qui il a cru. Abraham est notre père devant celui en qui il a cru. Le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Regardez, le verset 18 que vous devez retenir pour toujours. J'aime ça. Romains 4, 18 qui dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de peuples. Selon la parole, telle sera ta descendance. Espérant contre toute espérance, j'ai mis ça en couleur. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi. Celui qui a la foi d'Abraham espère contre toute espérance. Celui qui a la foi d'Abraham ne peut pas, celui qui est enfant d'Abraham ne peut pas dire que non, moi mon cas est désespéré. Parce que pour Abraham, il n'y avait même pas d'espérance. Quand on dit espérant contre toute espérance, il n'y avait pas d'espérance. Mais là où il n'y avait pas d'espérance, Abraham croyait quand même. Quand il partait sacrifier Isaac, non seulement Dieu fait par Sarah, il chasse Ismaël. Vous vous en souvenez, non? Donc, il chasse Ismaël et maintenant qu'il a chassé Ismaël le seul, Dieu dit, bon, va tuer Isaac. Ah! L'héritier là, en temps, il a chassé Ismaël et sa mère. Ça veut dire que Ismaël sait que je ne suis pas le bienvenu. Le gars ne m'aime pas. Je suis détesté. Au moins si Ismaël était là, si on sacrifie Isaac, il y a une descendance. Mais chasser Ismaël, et puis maintenant demander que l'héritier, celui qui sera, qui va assurer la descendance, soit sacrifié, c'était trop. Mais Abraham espérait contre toute espérance. Il dit, Dieu pourvoira. Il avait juré. Pourquoi? Parce qu'il dit, même si Abraham dans son esprit, mais ce que j'ai lu, vous n'avez pas fait attention. Abraham avait cette foi-là. Il dit, il est le père devant celui en qui il a cru. Le Dieu qui fait vivre les morts. Donc Abraham avait cette connaissance de ce Dieu qui fait vivre qui? Les morts. Donc il était convaincu que même si on tuait son fils vivrait. Le Dieu qui fait vivre qui? Les morts. Il s'est dit, de toutes les manières, celui en qui j'ai placé ma foi là, c'est lui qui fait vivre les morts. Donc même si mon fils mourait, il vivrait. Parce que ce Dieu en qui j'ai placé ma foi là, ce Dieu est capable de tout. C'est pourquoi il a dit, et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit, non seulement il fait vivre les morts, mais si mon fils est mort, il va appeler à l'existence la vie. C'est pourquoi moi, Abraham, je crois. Un point, un trait. Moi, Abraham, je crois. Un point, un trait. Personne ne va me détourner de ma foi. Et c'est ce que je voudrais nous communiquer en ce soir. Quel que soit ce que tu traverses, jusqu'à ce que Dieu me reprenne la vie, je croirai toujours. Que Dieu est capable de tout. Parce que c'est lui qui fait vivre les vivants et les morts. Je veux que tu retiennes ce verset. Romains 4, verset 17. 17b, il dit, il est notre père devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le verset 18 va compléter pour dire, espérant alors contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'une multitude. Et devint ainsi le père d'un grand nombre de peuples. Selon la parole, telle sera ta descendance. Le verset 19 va nous dire quoi? Il ne faiblit pas dans la foi. Écoutez, en considérant son corps. Il était presque centenaire. La Bible dit qu'il était presque centenaire. Et le sein maternel de Sarah, l'un et l'autre atteint par la mort. Je répète ce verset 19 là. Il ne faiblit pas dans la foi. Que quelqu'un ne faiblisse pas dans la foi. Écoute-moi, ton cœur n'est pas désespéré. C'est la foi qui appelle le miracle. C'est la foi en Dieu qui appelle le miracle. Ton miracle, c'est la foi en Dieu. Tu veux être repositionné, c'est la foi en Dieu. Ce n'est pas autre chose. Tu veux guérir, c'est la foi totale en Dieu. La foi en Dieu. Cette foi qui ne faiblit pas, quel que soit le diagnostic de ce monde. Quelle que soit la situation, tu as postulé, on dit, ils ont déjà pris quelqu'un. Ce n'est pas ton problème. J'espère contre toute espérance que mon sort est déjà scellé dans le Seigneur. C'est moi, on a pris un point très. C'est cette foi aveugle, cette foi folle, cette foi bête cette foi-là qui fait la différence entre les chrétiens. Ceux-là qui sont réellement enfants d'Abraham et ceux-là qui sont enfants d'Abraham par procuration. Parce que beaucoup sont assis ici, sont enfants d'Abraham par procuration. Il dit, comme mon papa c'est Abraham, bon, c'est qui est-ce que c'est là? Mais l'enfant d'Abraham manifeste la foi de son père Abraham. Jésus dit, le fils fait ce qu'il voit faire le père. Le fils fait ce qu'il voit faire le père. Mais si ton père c'est Abraham, manifeste cette foi. Je lis, le verset 19 dit, il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. Il était presque centenaire. Abraham était vieux, fatigué. Il peut faire quel enfant là? Il a quelle force? Quand vous lisez la Bible, quand David approchait les 80 ans, on lui a donné une jeune fille vierge pour le remonter, pour qu'il soit. Il ne peut plus rien faire, il est fatigué. Abraham était fatigué. Quel enfant il va avoir ici? Mais mieux, regardez la suite. On dit, et le sein maternel de Sarah, le sein maternel, ce n'est pas Saint-Salah. Hein. L'un et l'autre, si vous voulez, on parle des trompes déjà. Même si on prend encore même le sein qu'on dit, comme on connaît là, on dit, ça ne peut pas produire lait. Sarah est finie. Elle est fanée comme Fanico. Il n'y a rien à faire pour elle. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais j'ai vu le Seigneur intervenir dans la vie d'une femme. J'étais allé un temps de prière dans un pays. Elle avait 64 ans, son mari 65 ans. Ils sont restés accrochés à un serviteur de Dieu. Depuis toujours, depuis que l'homme de Dieu a commencé, ils sont avec lui. Mais imaginez, cet homme de Dieu, il prie pour les cas. Dieu décante les situations depuis. Mais ils sont là. Ça fait combien d'années ils sont avec le serviteur de Dieu? Il n'y a pas d'enfant. Mais ils sont restés fidèles au serviteur de Dieu. Ils sont loyaux. Moi-même, j'étais étonné. Jusqu'à ce qu'ils aient 64, 65 ans. Jusqu'à ce qu'ils aient 64, 65 ans. Ils continuaient de croire en ce serviteur de Dieu, croyant que Dieu l'a établi. Et que le serviteur de Dieu a dit, Dieu vous donnera un enfant. Mais imaginez, l'homme de Dieu a commencé à servir le Seigneur depuis 80, 82. C'est seulement il y a 3 ans qu'ils ont eu leur enfant. Je vois des jeunes filles ici qui disent, moi-même, est-ce qu'elle pouvait me marier? Demandez à Nadège. Elle disait que, non, mais papa, je suis en train de vieillir. Je dis, je m'en fous. Demandez-lui, je lui ai dit ça. Il dit, tu as quel problème? Est-ce que Dieu est limité par le temps pour mariage? C'est toi qui es en train de gesticuler. Mais si tu as la foi d'Abraham et que tu persistes jusqu'au bout, le meilleur est pour toi. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Il dit, si tu as la foi d'Abraham et que tu persistes jusqu'au bout, le meilleur est ton héritage, est ton partage. Vous êtes Jaouli André Pussuchien. Vous voyez les Pussuchien. Vous savez quel problème? Dieu est prêt à agir avec chacun de nous. Avec puissance. Avec puissance. Je dis encore avec quoi? Puissance. Le corps fatigué de Sarah a reçu la résurrection. C'est ce que la Bible dit, non? On dit, lui qui a le Dieu qui fait vivre les morts. Donc, le corps fatigué de Sarah a reçu la résurrection. Le sein qui ne peut pas donner de lait. Le sein qui ne peut pas donner de lait a produit du lait. Les trompes qui ne pouvaient pas produire des ovules ont pondu des ovules et ont donné l'un des hommes de Dieu les plus terribles que l'histoire de la Bible connaisse, Isaac. Celui qui n'a jamais entendu problème, contrairement à son papa. Isaac est resté seul avec sa femme, jusque dans sa vieillesse. Son papa, c'était un gars, c'est un roublard. Abraham, c'était un homme d'affaires. C'est à cause de ça, son petit-fils Jacob est comme lui. Amen. 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 Quelqu'un me suit? Il faut que vous arrêtiez de penser que c'est parce que, bon, comme j'ai péché là, c'est à cause de ça, depuis là, ma situation n'a pas changé. Mais si tu as la foi d'Abraham, tu comprends que tu es enfant de Dieu et que parce que tu as péché, tu étais humilié devant ton Dieu, ton Père t'a déjà pardonné. Et que la Bible dit, regardez, l'Église catholique dit, ne compte pas nos péchés, mais la foi de ton Église. De ton Église. En réalité, si Dieu voulait nous traiter selon nos péchés, aucun homme ne vivrait. Si Dieu voulait dire, bon, comme tu as bien parlé, je te donne tant. C'est quel homme il allait trouver sur la terre? C'est pourquoi Paul insiste. En Romain, il dit, d'ailleurs même il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Si quelqu'un est juste, alors vienne notre foi. Pourquoi? Ça veut dire que Jésus-Christ, en réalité, n'est pas mort pour le péché des hommes. Cela seul, ça me suffit pour dire qu'il n'y a aucun juste. Si il y a un juste sur la terre, c'est que c'est lui qui est Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est juste. D'autres, quand je change avec des gens, ils disent non, mais berger, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Ils sont semblables à ce jeune homme qui est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Il dit, mais tu connais la loi. Tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Il dit, Seigneur, depuis ma tendre enfance, je respecte tout ça. Et la Bible dit, Jésus était heureux, il était émerveillé par lui. Parce que Dieu connaît le cœur des hommes. Et il sait, Jésus a compris que c'est vrai. Il dit la vérité, il respecte tout ça. Mais il y a une chose que le jeune ne respectait pas. Amen. Il dit, bon, tu as fait tout ça. Maintenant, si tu veux me suivre, il dit, que faut-il faire pour être sauvé? Ça, c'est pour être sauvé. Mais pour suivre Jésus, c'est différent. Il dit, si tu veux me suivre, va, vends, viens et suis-moi. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, viens et suis-moi. Quand le gars a regardé les cinq étapes là, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, viens et suis-moi. Le jeune a regardé, dit, et la Bible dit, le jeune a été découragé parce qu'il avait beaucoup de biens. En réalité, il n'était pas juste. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était comment? Il était avide. Il était quoi encore? Non, pas un but de sa personne, mais il était quoi? C'est un gars, il aime le pouvoir. Il aime la gloire. Tout ce qu'il a là, moi j'ai laissé ça, mais demain, comment me considérer dans ce pays? Donc, quand Dieu regarde tout ça, Jésus avait vu que c'est vrai, il respecte la loi. Mais la loi, il pensait qu'il a vivait pleinement. Mais l'accomplissement total de la loi, c'est le don de soi devant le Seigneur. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il dit, l'accomplissement de la loi dans la vie d'un homme, c'est le don de sa vie à Dieu lui-même. Mais quand il a regardé, s'il donne sa vie à Dieu comme ça, mais il perd tout. Il dit, ah non, faut pas toi aussi, n'exagère pas. Jésus, tu exagères là. Je fais tout pour respecter ta parole. Mais mon argent que j'ai là aussi, tu dis d'aller donner aux gens. Pourquoi? Et nous sommes de cette catégorie-là. Alors que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous croyons follement en lui. Que nous nous donnions totalement. Et que nous croyons que Dieu est le juste rémunérateur de tous les hommes. Si Dieu voulait regarder à chacun de nous pour nous bénir, personne parmi nous ne serait béni. Franchement, hein, moi en premier, quand je regarde mon existence, il y a ce son-là qu'on chante malheureusement pour quand on veut faire funérailles. Pour moi, ce n'est pas un son de funérailles. Quand je regarde à mon existence, on dit quoi? Quand je fais quoi? Nu, je suis né. Voilà, quand je pense à mon existence, je ne puis qu'être attristé. C'est la vérité. Je suis nu. Je suis né nu. Rien. Mais qu'est-ce que j'ai en réalité? Mais Dieu m'a tout donné. La Bible dit, il n'y a rien que vous ayez que vous n'ayez reçu. Tu as dit, non, c'est moi qui ai acheté. C'est moi, quand même, c'est moi qui ai acheté mon habit. J'ai pris, c'est mon argent. Qui t'a donné le travail? Tu as dit, non, j'ai étudié. Qui t'a donné l'intelligence? Tout revient à Dieu. Tu n'as rien qui est de toi-même. Tout revient à Dieu. C'est pourquoi l'église catholique, moi j'aime cette église-là. Par lui, avec lui et en lui. Ça ne vous dit rien. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Mais il reçoit, en réalité, c'est à lui tout l'honneur et toute la gloire. Pourquoi? C'est par lui, avec lui et en lui que nous existons. C'est pas lui que nous existons, c'est avec lui que nous existons et c'est en lui que nous existons. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout. Il nous prend tel que nous sommes, même avec nos péchés. Et
ça, ce n'est pas un frein à son action. Il est le Dieu qui fait vivre les morts, qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu appelle à l'existence dans ta vie ce qui n'existe pas, mon frère, ma soeur. Je t'en prie. Ce n'est pas le moment de faiblir pour dire non, Dieu n'est pas capable. Pour toi-même, peut-être tu as dit pour la santé là, les médecins peuvent faire quelque chose. Mais aujourd'hui qu'on a été en évangélisation, c'est arrêté sur la terre de Eden, la terre de la communauté là. Chaque fois je suis là, je dis, hé Seigneur, dans quel dilemme tu m'as mis là? Quand je suis là, je pense à ça, je dis, tu as fait ma bouche qui parle beaucoup là, aller dire que toi tu dis tu as fait ville-cité. Seigneur, depuis là, je ne vois pas Saint-Franc quelque part, mais qui est venu pour dire on bâtit même un bâtiment. C'est dans quoi je me suis mis? Et chaque fois je pense à ça, il dit oui, quelle honte. Ils vont dire, mais celui-là, ce jeune-là, c'est un menteur. Dieu ne lui a jamais parlé. Dans quel coup il dit, Dieu va faire vide cité. Lui-même n'a même pas cabane, c'est vide cité, il parle de ça. Dans quel pays? Où ça? Il se prend pour qui même? Et le combat est rude dans mon cœur, régulièrement. Et quand je vois que ce combat est rude, je reviens toujours à Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi. Et ça me donne de la force, du tonus. Je bondis comme Bartimée. Je bondis sur mes pieds et je dis, allons-y Seigneur. Espérant contre toute espérance que Dieu est capable de le faire. Dieu a dit dans sa parole, il te fera habiter des maisons que tu n'auras pas construites. Alléluia. La plupart d'entre vous, vous êtes dans des maisons, même si c'est en location, est-ce que c'est vous qui avez construit? La parole est vérité. Est-ce que c'est vous qui avez construit? Mais vous habitez dans des maisons que vous n'avez pas construites. Alléluia. Comment ils s'arrangent pour faire ça? Normalement, quand tu n'as pas construit une maison, tu dois dormir dehors. Même si tu viens à ton ami, il va dire, mon ami, il n'a pas besoin de toi. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi. Le verset 19, il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. C'est-à-dire, Abraham n'a pas regardé au fait que les circonstances de sa vie ne jouaient pas en sa faveur. Vous suivez? Quand lui-même il regarde à sa vie, normalement, il n'y a pas de miracle qui peut se produire. À 100 ans, là, il ne voit pas où il peut faire enfant. Sarah, qui avait déjà 75 ans là-bas, il ne voit pas où elle peut faire enfant. C'est-à-dire, vrai. Il regarde lui-même Abraham, c'est dit, toutes les circonstances, écoutez-moi bien, les circonstances autour de vous ne permettent pas de voir humainement parlant que votre situation va changer. Quand nous étions en évangélisation, j'ai fait les écoutes jusqu'à tard dans la nuit et les gens, ce qu'ils me racontaient, mais pour eux, berger, il n'y a plus rien à faire. Et je leur ai dit, alléluia, qu'il n'y ait plus rien à faire. Ils disent, ah! Il dit, la Bible dit que si le grain qui tombe à terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Dieu merci qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Parce que maintenant, ta foi, toute ta foi résidera en Dieu seul. Toute ton espérance sera Dieu. C'est quand il y a quelque chose à faire que tu penses que tu es puissant, tu es fort. Et que toi, tu peux tout faire. Et que tu es brillant. Et que tu es intelligent. Et que ainsi de suite. Mais en réalité, quand il n'y a plus rien à faire, c'est alors que Dieu peut tout faire. Il faut écrire ça. Quand il n'y a plus rien à faire, c'est alors que Dieu peut tout faire. Ce sont des remarques que donne le Saint-Esprit. Quand il n'y a plus rien à faire, c'est alors que Dieu peut tout faire. Parce que là où la main de l'homme peut agir, que devrait faire Dieu? Il ne partage pas sa gloire avec un homme? Que devrait faire Dieu? Mais là, tu dis, Seigneur, voilà. Il n'y a plus rien à faire. Mes yeux sont tournés vers toi. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants, je veux que tu chantes à ton cœur, il les délivre de leurs souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé. Crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, rejeté par tous tes parents, crois et sois confiant, Dieu changera bientôt ton histoire. Dieu aime ses enfants, il aime ses enfants que nous sommes. Il les délivre de leurs souffrances. Mais pour qui puisse le faire? La foi d'Abraham. La foi d'Abraham. En ce soir, quand je vais finir tout de suite, tu vas saisir la foi d'Abraham. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux rien comme héritage d'Abraham que sa foi. La foi d'Abraham, voilà ce qui m'intéresse, Seigneur. Cette foi qui fait que même dans son péché, il disait, allons seulement, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Allons seulement. Vous savez, j'ai réfléchi à cette parole de Jésus qui dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. J'ai réfléchi à ça, il dit, ah! Et celle-là, le Saint-Esprit m'a dit, il y a des gens qui vivent moins saintement que vous, mais qui sont plus saintes que vous. En fait, la prostituée, elle est dans son péché, c'est vrai. Elle, ça lui fait mal, elle regrette, elle a du mal à en sortir. Mais elle croit jusqu'au bout que Dieu la délivrera. Elle a une foi agissante comme tu ne peux pas imaginer. Elle vient se mettre à genoux devant le Seigneur. C'est toi ma force. Seigneur, je lutte, je n'en peux plus. Je crois que tu vas transformer mon histoire. Mon histoire ne va pas s'éteindre comme ça. On ne va pas dire la prostituée, on ne va pas chanter mon nom ainsi. Rahab la prostituée, l'ancêtre de Jésus-Christ, était une fille des Cananéens. C'était une fille des Cananéens, c'est-à-dire le peuple que Dieu dit on doit détruire. Pour sauver sa tête, la Bible ne nous dit jamais que non. Elle dit je pousse votre Dieu, c'est-à-dire je deviens moi aussi juive. Mais elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider ces hommes de Dieu là? Une alliance a été tissée. Donc la foi qu'elle avait, c'est que si je tisse une alliance, le Dieu va me protéger. Mais pourquoi nous, les enfants de la lumière, nous ne tissons pas d'alliance avec le Seigneur? Dans la foi, ta foi est une alliance forte. Ta foi est ce pont qui te permet de passer de ta misère à ta prospérité. Ta foi est ce pont qui te permet de passer de ta déchéance à ton élévation. Ta foi est ce pont qui te permet de passer de la stérilité à la fécondité abondante. Ta foi est ce pont. Ce bridge, ce pont qui te permet de passer de l'aveuglement à l'illumination. Ta foi est ce qui te permet de passer de la maladie à la pleine santé. C'est le pont qui te permet de passer de la maladie à la pleine santé. En réalité, ce pont-là, plus tu marches dessus, plus tu recouvres tous tes sens. Plus tout se restaure en toi. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. C'est une image forte du Seigneur. Quand quelqu'un a la foi dans le Seigneur, quel que soit son péché ou quoi, plus il marche dans la foi, plus il est sanctifié, plus il commence à ressembler à Dieu. Parce que la Bible est claire. Dans le livre de Romains au chapitre, Hébreux au chapitre 6, il dit, ah, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est-à-dire, ce qui intéresse Dieu, c'est ta foi en lui, la totale confiance en lui, l'adhésion totale à sa parole, pour dire, Seigneur, ce que ta parole dit, c'est vrai, je vais me convertir. Et si je me convertis, je crois une chose, ce n'est pas parce que moi, je me suis converti que je marche bien, que tu me guéris, que tu me restaures, mais c'est parce que je crois que tu es le Dieu des vivants et non des morts. Tu es celui-là qui ressuscite les morts. Mais tu es celui-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ça me tient à cœur, peuple de Dieu. Au verset 20, il dit, devant la promesse divine, écoutez bien, il a mis tout cela en couleur dans ma Bible. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu. Oula! devant le fait que Dieu a promis qu'il sera, il sera le père d'une multitude, on dit il ne succomba pas. Non, c'est magnifique. Le mot est magnifique. Le mot est bien employé. Il ne succomba pas. Succomber, c'est par rapport au péché. C'est-à-dire, si tu doutes, tu pèches. C'est pourquoi la Bible dit, oh, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Celui qui a la foi ne pèche pas. Oula. Celui qui a la foi, il regarde avec les yeux de Dieu, il entend avec les oreilles de Dieu, il comprend avec le cœur de Dieu. Celui qui a la foi, il ne pèche pas. Parce qu'il n'est pas régi par la loi, mais il est régi par la grâce qu'il attend. Vos histoires ne changent pas parce que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Devant la promesse divine, devant la promesse de Dieu, il ne succomba pas au doute. Il n'a pas laissé le doute s'installer parce que succomber au doute, c'est s'éloigner de la promesse. Douter un peu, c'est s'éloigner de ce que Dieu a dit. On dit, mais il fut fortifié par la foi. Qu'est-ce qui le rendit fort? La foi. Qu'est-ce qui rendit fort Abraham? La foi. Qu'est-ce qui a fait qu'il a vécu longtemps? La foi. La foi. Dieu va réécrire l'histoire de quelqu'un ce soir. Parce que tu vas avoir une foi qui va booster ton être de sorte que rien de ce qui se passe autour de toi ne va t'ébranler. Et tu seras un sujet de gloire pour le nom de Jésus-Christ. Tu seras alors une couronne éclatante entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? C'est au travers de toi qu'on saura que Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu seras une couronne éclatante entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu, au travers de toi, tu vas tellement briller qu'on va regarder, mais c'est quoi qui brille? On dit c'est la couronne du Seigneur. En fait, c'est toi, on regarde et puis on dit, ah, dont le Seigneur est roi, dont le Seigneur est Dieu. Écoutez la suite. Il a dit, cette partie de la Bible, j'aime ça. Hein. Moi, mon livre préféré dans la Bible, je vous ai dit, c'est Romains, hein, Deutéronome. Ah non, j'aime. Romains. Regardez la suite, le verset 21. On dit, donc il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu. C'est dit, il a commencé à glorifier Dieu. Il dit, oh Seigneur, que ton nom soit béni parce que je suis en très bonne santé. Moi, Abraham, je ne suis pas vieux. C'est là que je me rends compte que moi, il peut faire encore des enfants. C'est que vous ne savez pas, quand on lit l'histoire d'Abraham, quand il est mort, on dit qu'il avait d'autres enfants. Donc, dans sa vieillesse, il a eu enfant. Il était devenu tout jeune. Tout jeune. Mais regardez le verset 21. J'ai tout mis en couleur parce que j'aime ça. Pleinement convaincu que ce qu'il a promis, ce que Dieu a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Oula. Pleinement convaincu. Est-ce que tu es pleinement convaincu que ce que Dieu a promis? Est-ce que tu es pleinement convaincu que si Dieu t'a promis la restauration, il a aussi la puissance de l'accomplir? Pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Si tu es pleinement convaincu de ça, tu vas passer ton temps à rendre grâce à Dieu, à bénir son nom, à le célébrer, quelle que soit l'adversité. Et la maladie commence à fuir. Oula. Et la pauvreté commence à prendre son chemin, la poudre d'escampette. Et le déshonneur commence à fuir, le péché commence à fuir ta vie. Parce qu'il dit, ah, tout ce qu'il a fait là, il croit encore que Dieu va le sauver, il ne va pas mourir dans le péché. Mais ce n'est pas la peine que je reste à côté de lui. Ce que je dis, cela est vérifié lorsque Satan a tenté Jésus pendant 40 jours. Comment ces 40 jours seulement il peut tenter Jésus? Toute la vie de Jésus est là. Ils m'ont dit pendant 40 jours il a tenté et puis il a attendu un autre moment, le temps favorable pour le tuer. Mais pendant 40 jours, il a insisté. Quand il a vu que Jésus a résisté, il dit quoi? C'est-à-dire quoi? Si toi et moi nous résistons à Satan pendant un moment, il va dire c'est bon, celui-là c'est pas la peine. Son histoire là, il n'est pas plus dedans. Pourquoi? Parce que pleinement convaincu que ce que Dieu m'a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Ce verset-là, ça apparente à Éphésiens 3, le verset 20. Qui le connaît? Éphésiens 3, 20. Qui le connaît? Oui, c'est quoi? À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. À celui qui peut, Dieu donc qui peut, par sa puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit, les arts de l'Esprit, les arts de Dieu, le Saint-Esprit que Dieu a mis dans notre cœur, Donc à celui qui peut, par le Saint-Esprit qui agit en nous, faire comment? Au-delà. On n'a pas dit faire au niveau, on dit au-delà. Infiniment au-delà. Far above all. C'est ça qui était notre thème. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà. En anglais, on dit far above all. C'est-à-dire bien au-dessus, très loin, far. C'est ça que j'aime. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'anglais. Quand on dit infiniment au-delà, je ne vois pas trop. Mais quand on dit far, c'est-à-dire éloigné même. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Tu penses quoi? Laisse ton imagination décrire ce que tu veux dans ce monde. Vous savez, quand on a commencé à penser à cette vision avec le Seigneur, un jour je pense, et puis un jour le Seigneur me dit, Philippe, dis-moi, quelle est ta limite? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Où tu veux que je m'arrête? Donne-moi ta limite et puis j'accomplis ça pour toi. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, moi je n'ai pas de limite. Hein. Il dit comment? Il dit, si tu t'étends, je m'étends. C'est pourquoi ma tête dans cette communauté ne fait que tourner et il y a plein de projets. Parce que Dieu est infini. Pourquoi il m'a arrêté? Pourquoi il m'a arrêté? Pourquoi? Si Dieu continue, moi je continue. Il va s'étendre avec moi jusqu'à ce que lui-même il dise, bon petit, c'est bon maintenant. Mais avant ça, je n'arrêterai rien du tout. Je ne mettrai pas un bémol à ma relation avec Dieu disant que Dieu n'est pas capable. Aucun chrétien n'a le droit de penser que Dieu est limité. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et mieux, Romains chapitre 4, 21 dit, pleinement convaincu, Abraham était pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Est-ce que quelqu'un croit que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir? Pourquoi je le dis? Parce qu'il dit pleinement convaincu que ce que Dieu a promis. Dieu a promis quoi? Il dit, celui qui marche avec moi, il aura la vie éternelle. Il est venu voir Marthe et Marie, il dit, votre frère vivra. Elle dit, oui, on sait, mais c'est quand on va ressusciter là? Il dit, aïe! Ne savez-vous pas que je suis la résurrection et la vie? Que celui qui est en moi, dès qu'il prononce mon nom, la vie se communique à lui? Ne savez-vous pas? Elle voit la vie éternelle au ciel là-bas. Mais en réalité, la vie de Dieu, la vie chrétienne, c'est-à-dire l'élévation de l'âme, la conversion, l'identification à Jésus-Christ commence sur la terre. Le royaume des cieux s'applique d'abord à toi, ici d'abord. Tu jouis de tout ce qu'il y a sur la terre. Ce n'est pas au ciel que tu as commencé à jubiler. C'est déjà ici qu'on commence à voir que tu as jubilé au ciel. On l'a vu avec Étienne. Étienne avait commencé à manifester la puissance de Dieu comme Jésus-Christ lui-même. Et même sur la terre, il regardait, il contemplait le ciel. La gloire de Dieu sur la terre. Et là-bas, il va aller vivre ça. Alléluia. Alléluia. C'est un message d'espérance, pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Espérant contre toute espérance, il crut. Quelqu'un doit espérer contre toute espérance en ce soir. Ton histoire n'est pas finie. Écoute-moi, ton histoire n'est pas finie. C'est maintenant ton histoire commence. Le colonel Alan Sanders de KFC a commencé à 63 ans. Il a été le premier homme à créer les fast-food. 63 ans. Il y a quelle espérance là? Mais il a espéré. Il a mis les premiers fast-food en place. Aujourd'hui, même après lui, on continue de parler de KFC. Qui emploie des milliers et des milliers de personnes de par le monde. À 63 ans. Révélation divine. Il est devenu ce qu'il est. Abraham, à presque 100 ans, il fait un enfant qui devient notre père à tous, Isaac, enfant de la promesse, et nous nous héritons avec lui. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas tard pour toi. Saisis le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi en ce soir. Saisis le bouclier de la foi. Saisis le bouclier de la foi. Saisis le bouclier de la foi. pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Saisis le bouclier de la foi pour éteindre la maladie. Saisis le bouclier de la foi pour éteindre les adversités les plus ténaces. Saisis le bouclier de la foi pour que ton histoire change. Tu veux un repositionnement, saisis le bouclier de la foi. Espérant contre toute espérance, tu deviendras alors ce que tu as espéré. Alléluia. Tu espères quoi? Donc il faut espérer contre toute espérance. Ce que je vous dis, ça s'applique à moi, à nous tous, dans notre marche avec le Seigneur. Espérons contre toute espérance. Chacun de nous doit espérer contre toute espérance. Afin que notre histoire ne soit plus jamais la même. Si dans nos familles, c'était des familles de misère pour toujours, à partir de toi, on doit chanter maintenant l'alléluia de la famille. Si dans votre famille, c'était Kyrie eleison, désormais on doit chanter Gloria in excelsis Deo. Toi, toujours dans ta famille, c'est Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Écoute-moi. Il faut que désormais, on chante Saint, Saint, Saint le Seigneur, parce que ta famille est une famille sanctifiée. Il faut qu'on chante Gloria in excelsis Deo et in terra façon. Je ne connais pas bien où. C'est compliqué ces histoires-là. Si on chantait Nani, c'était plus simple. Ou bien en Apollo. Mais vos histoires de latin, là, ce n'est pas pour moi. Alléluia. 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 Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi. Tu vas te lever dans la foi. Comme un vaillant soldat, tu vas te lever. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce message d'espérance. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis merci à Dieu.
PPE, pastorale pour la propagation de l'Évangile.